supprimer les chefs. C'est une question d'heure, ce soir, cette nuit. Condé, bien sûr. Et puis d'Aubigny. Téligny, Beauvois, Mornay, Dubartas, La Rochefoucauld.
Crussol.
Miossens.
Armagnac.
Et Navarre, bien sûr.
Non, pas Navarre. Coligny. Où est la mort de la Murat? Moi aussi. Mais alors, tous les autres dans toute la France vont y passer avec lui. Pas un seul ne doit rester. Pas un seul qui puisse venir m'en faire le reproche.
Alors, combien faut-il en tuer?
11.
14.
Tous!
C'est un extrait de La Reine Margot, le film de Patrice Chéreau, un dialogue entre Henri, duc d'Anjou, joué par Pascal Grégory, et Charles IX, joué par Jean-Hugues Anglade, lors d'un conseil de famille avant la Saint-Barthélemy qui a eu lieu le 24 août 1572. Pour en parler, Raphaël Dargent, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes avec nous par téléphone, vous êtes historien, écrivain, vous avez récemment publié Catherine de Médicis, La Reine de Fer, aux éditions Granger. Dans quel contexte arrive cette Saint-Barthélemy?
Je dirais qu'à Saint-Barthélemy, il y a des causes de longue durée et puis il y a des causes circonstancielles. Les causes de longue durée, c'est tout simplement les guerres de religion. Là, nous sommes en 1572. On peut dire que le début des guerres de religion, c'est 1562, mais on a précédemment des heurts très violents entre réformés et catholiques. Et puis, il y a des causes circonstancielles, puisqu'en effet, le 24 août 1572, eh bien, on est 2 jours après l'attentat manqué contre Coligny, l'un des grands chefs huguenots. Et puis, on est là aussi quelques jours après le mariage de Marguerite de Valois et Henri de Navarre.
Alors, cette tentative d'assassinat de duc de Coligny, l'un des chefs quand même des Huguenots, vous l'avez dit, qui le décide? Est-ce que c'est Catherine de Médicis? Est-ce que c'est le duc d'Albe? Est-ce que c'est le duc de Guise? Je crois que ça n'a pas encore été très déterminé.
Mon opinion est que Catherine de Médicis joue un rôle déterminant dans cette affaire. Pourquoi? Il faut bien se rendre compte que Coligny, à ce moment-là, joue un rôle considérable auprès du roi Charles IX. Il a une influence très importante et il essaye surtout de pousser Charles IX à intervenir militairement aux Pays-Bas espagnols. Et c'est évidemment inacceptable pour Catherine de Médicis, qui estime que là, il y a un risque majeur pour le royaume. D'autre part, Coligny menace. C'est-à-dire qu'au mois de juin, lors d'un conseil, il prévient Catherine de Médicis que si la guerre n'est pas déclenchée contre l'Espagne, eh bien une autre guerre peut menacer le roi, et une guerre bien plus terrible, une guerre intérieure. Et lors du mariage de Marguerite de Valois, le 18 août 1572, avec Henri de Navarre, eh bien Coligny provoque encore la reine-mère, puisqu'il y a là des drapeaux qui sont suspendus au sein de la cathédrale, qui honorent les grandes victoires catholiques. Et Coligny regarde ces drapeaux et puis, se tournant vers la reine, laisse entendre que ces drapeaux, bientôt, on va les décrocher de cet endroit et en mettre d'autres.
Alors, l'assassinat de Coligny, c'est l'élément déclencheur, c'est l'un des premiers à être tué. Mais je crois qu'il y a 2 Saint-Barthélemy. En fait, il y a eu cette Saint-Barthélemy d'État, conçue par les dirigeants et faite contre les hauts dignitaires. Et une Saint-Barthélemy plus populaire.
Tout à fait. C'est-à-dire que Coligny n'est pas assassiné le 22 août. L'attentat est manqué. Et en fait, ça provoque aussitôt une réaction en chaîne, si je puis dire. Vous avez évidemment les Huguenots qui, désormais, veulent en découdre. Ils sont là rassemblés à Paris à l'occasion de ce mariage donc royal. Et ils veulent venger cette tentative d'assassinat. Et donc, dans la précipitation, le 23 août, à 9h du soir, et bien c'est l'extrait qu'on vient d'entendre tout à l'heure, le conseil se réunit dans la chambre du roi Charles IX. Il y a là évidemment Charles IX, il y a le duc d'Anjou, son frère, il y a aussi Catherine de Médicis. Et Charles IX n'est pas décidé véritablement à frapper les Huguenots, et il se laisse convaincre par sa mère et par son frère, essentiellement, mais aussi par Guise. Et donc, il faut les tuer. Mais les tuer tous, en réalité, vous l'avez dit, il y a 2 Saint-Barthélemy. Et cette première Saint-Barthélemy, elle est décidée lors de ce conseil royal. Il s'agit de frapper les chefs Huguenots. Donc, c'est très ciblé. On peut dire qu'elle fait à peu près 200 morts. On assassine cette fois-ci pour de bon Coligny et d'autres chefs huguenots présents au Louvre. On épargne Henri de Navarre. On épargne également Condé, le prince de Condé. On leur demande d'ailleurs d'abjurer leur foi. Le pouvoir royal concevait d'abord la Saint-Barthélemy comme cette forme de purge tout à fait civile.
En fait, il n'avait pas anticipé que le peuple, lui aussi, s'y mettrait.
Tout à fait. Et en fait, il y a un débordement très clair, puisque au matin donc du 24 août, eh bien, une fois que cette première Saint-Barthélemy est terminée, eh bien, cette population parisienne va se déchaîner. Et là, en effet, on a une Saint-Barthélemy populaire qui va faire, elle, plusieurs milliers de morts. On estime autour de 3000 morts.
Mais il n'y a pas qu'à Paris, d'ailleurs. Ça prend en province.
Ça prend tout à fait en province. La Charité, Meaux, Saumur, Troyes, Bourges, Angers, surtout à Lyon, à Rouen, à Bordeaux. On estime que, en totalité, cette Saint-Barthélemy va faire entre 20 000 et 30 000 victimes.
Raphaël Dargent, quelles sont les traces dans l'histoire de cette Saint-Barthélemy ?
Dans la mémoire collective, il nous reste, bien sûr, cette date est symbolique, mais disons qu'il y a des conséquences politiques immédiates, avec la satisfaction, bien sûr, des puissances catholiques. Philippe II d'Espagne, le pape, se réjouissent de cette Saint-Barthélemy. Le pape ordonne la fabrication d'une médaille commémorative en l'honneur de cette Saint-Barthélemy. À l'inverse, vous avez les puissances protestantes, l'Angleterre, la Suisse, les États allemands, qui expriment une colère. Et puis surtout, il y a des conséquences politiques de longue durée, puisqu'on estime qu'il y a là un tournant dans la monarchie française, puisque Charles IX, largement poussé par son frère et par sa mère, bien sûr, franchit le pas vers davantage d'absolutisme. Il commet en quelque sorte un crime d'État au nom de la raison d'État, et c'est, on peut dire, la première fois qu'un roi mène une action comme cela préventive, hein, puisqu'il s'agit de frapper avant d'être soi-même frappé, une action préventive extrêmement violente, au-delà de la loi, si vous voulez.
Est-ce qu'on peut dire que cette Saint-Barthélemy se termine avec l'édit de Nantes en 1598 ?
Oui et non. Oui, dans un premier temps, parce que, en effet, Henri de Navarre, donc désormais Henri IV, va, grâce à l'édit de Nantes, effectivement, faire en sorte de pacifier le royaume. Et puis non, parce que au-delà d'Henri IV, cette Saint-Barthélemy rebondit, ce conflit religieux rebondit. En 1629, Richelieu doit faire le siège de La Rochelle, hein, et un peu pour les mêmes raisons que Catherine de Médicis avant lui, La Rochelle, c'est un état dans l'état, un nid de guêpes, dit-il, il faut absolument réduire cette citadelle huguenote qui fait intervenir l'étranger, donc, et qui se mêle en quelque sorte à contester l'autorité royale.
Raphaël Dargent, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes historien et écrivain et que vous avez récemment publié Catherine de Médicis, La Reine de Fer. C'était en avril 2011 aux éditions Grancher. Merci à vous.